Le journal vous est présenté par Sarah Petitbon.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi soir au Népal, le bilan s'alourdit d'heure en heure après le terrible séisme qui a frappé le pays et notamment la vallée de Katmandou. L'Inde voisine et le Bangladesh ont eux aussi été touchés. Un peu de répit pour Serge Atlaoui, le Français détenu en Indonésie et accusé de trafic de drogue ne figure pas sur la liste des prochains condamnés à mort du pays. Mais son sort continue d'inquiéter la diplomatie française. Nous y revenons au début de ce journal. En Syrie, le régime a perdu du terrain ce matin après la prise par les rebelles d'une ville stratégique dans le sud-ouest du pays. Désormais, le territoire contrôlé par le régime est quasiment entièrement encerclé par les djihadistes. Analyse à venir d'Hélène Bourgon. Nouveau scandale sanitaire en Europe, un trafic de viande de cheval de grande échelle vient d'être démantelé. 26 personnes ont été arrêtées dans toute l'Europe. Précision à venir de Quentin Dickinson. Et pour commencer ce journal, direction le Népal et sa capitale, Katmandou. La terre a violemment tremblé, je vous le disais, cette nuit. Séisme d'une magnitude de 7,9 ressenti jusqu'à New Delhi, en Inde voisine. Les autorités recensent pour le moment plus d'un millier de morts dans le pays et des dizaines d'autres dans les pays voisins, en Inde donc et au Bangladesh. Swarna Tamrakar était dans le quartier historique de Katmandou. Elle a assisté à l'effondrement des bâtiments. Je vous propose d'écouter son témoignage.
J'étais au centre-ville, ça s'appelle le Bassin Tampur. C'est un quartier historique rempli de temples anciens qui ont des centaines d'années. Et j'ai juste vu ces temples s'effondrer devant moi. C'était très impressionnant, j'ai vraiment eu très peur. Je suis rentrée chez moi à pied parce qu'il n'y avait plus vraiment de transport. J'avais ma voiture, mais elle transportait des blessés. Donc je l'ai laissée là et j'ai marché. Les gens essayent de sauver ceux qui sont coincés sous les décombres du palais, de tous ces immeubles, de ces temples. J'en ai vu quelques-uns qui étaient coincés, mais les gens se mobilisent pour les aider. Les répliques du tremblement de terre ont encore plus effrayé les gens. C'était vraiment terrifiant parce qu'elles ont été très fortes. Là, je suis avec ma famille devant notre maison. On campe dehors. On a pris toutes nos affaires comme des aliments secs, quelques médicaments, des couvertures. On va rester à l'extérieur quelques temps.
Un témoignage recueilli par Laura Aronica. Et à noter que les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé l'envoi de secours et le déblocage d'une aide $1 million. Serait-ce un espoir pour Serge Atlaoui? Le Français condamné à mort en Indonésie ne figure pas sur la liste des exécutions imminentes. 9 autres condamnés à la peine capitale, parmi lesquels 8 étrangers, n'ont pas eu cette chance et ont été informés ce matin de leur exécution prochaine. Pour le moment, le sort du Français de 51 ans reste précaire malgré d'intenses pressions diplomatiques de Paris qui a d'ores et déjà menacé l'archipel de représailles diplomatiques. Alors, où en est le dossier Atlaoui? Précision à Jakarta de Marie Dumière.
Selon les autorités indonésiennes, Serge Atlaoui a été retiré de la liste des prochaines exécutions parce que l'un de ses recours est toujours en cours d'examen auprès de la cour administrative. L'avocate indonésienne de Serge Atlaoui conteste le rejet de la demande de grâce présidentielle du Français, arguant que tous les éléments du dossier n'ont pas été pris en compte. Un sursis pour Serge Atlaoui donc, mais tout de même peu d'espoir. Il faut rappeler que les deux condamnés australiens sur la liste des prochaines exécutions avaient tenté la même approche auparavant. Cela s'était soldé par un échec. La cour administrative avait targué que la question ne relevait pas de sa juridiction. Peu de chances donc que les choses prennent une tournure différente dans le cas de Serge Atlaoui. Rappelons aussi que les deux Australiens et la Philippine qui viennent de recevoir aujourd'hui la notification officielle de leur exécution prochaine ont aussi déposé des recours qui n'ont toujours pas été examinés. Alors pourquoi cette décision du parquet indonésien d'autoriser Serge Atlaoui seul à poursuivre ce recours? La pression de la France aurait-elle joué un rôle dans cette décision? Impossible de le savoir pour l'instant. Rappelons que la position du président indonésien reste à ce jour inchangé. Il ne peut y avoir, selon lui, de clémence pour les trafiquants de drogue.
Une précision signée Marie Dumière, correspondante de RFI en Indonésie. En France, des manifestations de soutien ont eu lieu à Metz, en Moselle, d'où Serge Atlaoui est originaire, mais aussi à Paris, où 200 personnes s'étaient rassemblées cet après-midi. Sophia Anastasio y a rencontré maître Richard Cédillo, l'avocat de Serge Atlaoui. Pour lui, la mobilisation de la population est très importante et pourrait permettre de faire évoluer la situation.
Une exécution heurterait très profondément la conscience du peuple français et affecterait donc les relations entre la France et l'Indonésie. Nous devons donc prouver que le peuple français est affecté. Je sais qu'il l'est. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois, y compris le français, qui me disent maintenant, et ils sont de plus en plus nombreux, nous avons annulé nos vacances en Indonésie. Il est hors de question de se rendre dans un pays qui exécute des innocents dans de telles conditions. Il y a des tours opérateurs qui commencent à réfléchir au maintien de leurs prestations en Indonésie. Il y a des chefs d'entreprise qui commencent à s'interroger. Voilà, c'est un mouvement de fond qui est très rassurant. La société française doit être pleinement mobilisée. Serge Atlaoui est toujours condamné à mort, il est toujours dans les couloirs de la mort. Il veut y croire parce qu'il est exceptionnellement courageux. Si notre travail judiciaire, juridique, diplomatique, politique, médiatique, doit porter ses fruits un jour, il doit s'intensifier.
L'avocat de Serge Atlaoui, maître Richard Sédillo. L'avenir politique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, toujours très incertain. Un processus de décolonisation progressive assorti d'un référendum d'autodétermination est en cours sur l'île. Processus qui pourrait conduire à terme à l'indépendance du Caillou et qui engendre de profondes divisions politiques. En visite sur l'île, le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a réaffirmé ce matin l'impartialité de l'État et proposé l'organisation prochaine à Paris d'une réunion des élus locaux consacrée au corps électoral. L'un des points de friction entre partisans et opposants de l'indépendance. L'Europe secouée par un nouveau scandale sanitaire, un trafic de viande de cheval de grande échelle vient d'être démantelé et 26 personnes ont été arrêtées en Europe, notamment en France. Et cela grâce à une enquête d'Eurojust, l'instance européenne de coordination judiciaire. Tout est parti de la division sanitaire du parquet de Marseille qui a ouvert une enquête en juillet 2013. Les suspects feraient partie d'un réseau criminel organisé qui falsifiait les documents de chevaux pour vendre de la viande impropre à la consommation. Explication Quentin Dickinson.
Selon les premiers résultats de cette vaste opération coup de poing, de 2010 à 2013, ce serait plus de 4700 chevaux impropres à la consommation humaine qui auraient été introduits dans la filière alimentaire légale au moyen de documents vétérinaires falsifiés. L'opération coordonnée par la cellule France de l'agence judiciaire européenne Eurojust à La Haye a abouti à 26 arrestations dans 7 pays de l'UE, à une quarantaine de perquisitions, à la saisie de 37 000 euros en liquide, de 800 documents individuels de chevaux abattus et de 200 chevaux sur pied devant faire l'objet de contrôles vétérinaires. Le cerveau du trafic est un Belge, installé près d'Arlon, dans les Ardennes belges. L'instruction ouverte en 2012 à son sujet a rapidement mené les enquêteurs en France, où le pôle de santé publique du parquet de Marseille a été saisi. Par la suite, les ramifications du trafic ont conduit aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Allemagne. 250 enquêteurs ont participé à l'opération, dont 100 gendarmes français.
Le régime syrien a subi ce matin un revers de taille en perdant la ville de Jis al-Shughour, point stratégique situé au sud-ouest du pays. Sorte de verrou entre Alep et Latakié, bastion des Alaouites et fief du président Bachar el-Assad. La ville est tombée aux mains des combattants du front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et des groupes rebelles islamistes. Désormais, le territoire contrôlé par le régime est quasiment entièrement encerclé par les djihadistes de l'État islamique et du front al-Nosra liés aux rebelles. À Beyrouth, la correspondance d'Hélène Bourgon.
Nouvelle victoire pour le groupe djihadiste Jabhat el-Nosra. En prenant la ville de Jisr el-Shughour aux mains de l'armée syrienne, les combattants de Jabhat el-Nosra marquent une avancée conséquente au nord-ouest du pays, où ils se sont emparés il y a quelques semaines de la capitale provinciale Idleb. Située aux portes de la Turquie et sur un axe menant à la ville de Latakié, fief du régime syrien, la ville de Jisr el-Shughour est une porte ouverte vers les localités contrôlées par l'armée syrienne. Elle constituait un rempart du régime contre l'avancée des rebelles vers la région côtière de Latakié, où vivent désormais la majorité des Alaouites du pays, communauté à laquelle appartient Bachar el-Assad, mais également de nombreux chrétiens et des populations déplacées de différentes confessions. L'armée syrienne contrôlerait encore l'axe à la périphérie de la ville afin d'éviter la progression des djihadistes vers Latakié. Alors que les rebelles de l'armée syrienne libre avaient abandonné certaines positions dans cette région, le groupe Jabhat el-Nosra, dont les combattants se font appeler dans cette zone l'armée de la conquête, semble lui être en position de force. La proximité de la frontière turque lui assure des ravitaillements en hommes et en armes. Des responsables à Damas voient en cette victoire une manœuvre de l'Arabie Saoudite et du Qatar afin d'affaiblir le régime à l'aube d'une rencontre entre les différentes parties qui devrait avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide de l'ONU.
Au Yémen, raids aériens et combats meurtriers se poursuivent malgré les appels de l'ex-président Salé aux rebelles houthis de se retirer des zones qu'ils occupent. Mais les houthis ont fait de l'arrêt des raids de la coalition dirigée par riad impréalable à leur retrait. Les combats ont opposé ce matin rebelles et partisans du président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi. Ces heurts et les raids de la coalition ont fait au moins 90 morts en 24 heures. Pour terminer, un œil au temps de demain. Si la nuit s'annonce plus calme, le temps se dégrade ensuite au fur et à mesure de la journée. Il pleuvra sur les côtes atlantiques, des pluies qui s'intensifieront lors de leur progression vers l'intérieur du pays. Les températures, elles sont en baisse de 10 degrés à Cherbourg demain matin et jusqu'à 17 degrés à Biarritz.